Europe 1, en balade avec Emmanuel Perrotin. Frédéric Tadini.
Bonjour, bon dimanche. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Emmanuel Perrotin, le petit prodige des marchands d'art. Sa première galerie, il l'a ouverte à 21 ans dans son appartement. Aujourd'hui, il a la plus grande de la capitale, une autre à New York, une à Hong Kong, une à Tokyo, une à Séoul, une à Shanghai, 7000 mètres carrés au total. Et c'est une balade dans le Marais, le Paris de Louis XIV, devenu le quartier des galeries, qu'il nous propose.
Europe 1, 11h30, en balade avec Emmanuel Perrotin. Frédéric Tadéhi.
Bonjour Emmanuel Perrotin, vous nous accueillez dans la cour de la galerie Perrotin, 76 rue de Turenne. À droite, la librairie, devant nous l'hôtel particulier sur 3-4 niveaux.
Moi j'ai 3 niveaux seulement.
3 niveaux.
Hôtel particulier, malheureusement il n'est pas particulier puisque je le partage avec beaucoup de propriétaires. Voilà, donc je voulais commencer la visite dès l'accueil. On rentre par une librairie. On a une grande librairie.
Une vraie librairie.
Voilà.
Comme dans les musées.
Alors, elle est plus auto-centrée sur nos activités. Il y a des choses un peu quand même sur d'autres artistes. Mais c'est essentiellement sur l'ensemble de nos artistes. Et je suis très heureux de pouvoir partager avec l'ensemble du public de la galerie les informations sur tous nos artistes. Parce que souvent, dans les galeries, on a accès à l'information ou à l'arrière de ce qui se passe que si on a montré patte blanche. Là, vous êtes vraiment les bienvenus. Vous pouvez venir très facilement. Il n'y a pas de buzzer. Vous posez
la
porte.
C'est vrai que maintenant, les gens osent entrer dans les galeries d'art contemporain, ce qui n'était pas vrai quand vous avez débuté, par exemple.
Ça a été une bataille de 30 ans. On était certaines galeries, même. Donc, encore une fois, il fallait sonner à la porte pour qu'on vienne vous ouvrir. Là, je vous promets, quand on nous dit que c'est intimidant, là, je peux le comprendre. Même moi-même, ça m'horripile.
C'est plus le cas.
On a 450 personnes par jour en moyenne dans cette galerie. On monte à des scores plus importants selon les artistes. Mais on est une galerie dont beaucoup de gens viennent pour la première fois, dont certains peuvent demander à l'accueil quel est le prix de l'entrée. Et là, je vous l'annonce, c'est gratuit.
Vous êtes, de tous les galeristes français, certainement le plus international. Et la preuve en est, c'est ce gros livre qui trône au milieu de la librairie, qui s'intitule le Perrotin Yearbook. C'est le numéro 28.
C'est la 28e année de la galerie. J'ai ouvert ma galerie à 21 ans. Et comment vous expliquer, le Yearbook, c'est plus de 400 pages. C'est un grand format. C'est vraiment un coffee table.
On va l'ouvrir. Hein.
Et ça rend compte des 44 expositions qu'on a organisées dans les 6 galeries. Donc Shanghai, Tokyo, Séoul, New York, Paris et Hong Kong. Et en une année, oui, on a. Alors j'ai une équipe formidable. On rend hommage à la fin du livre puisqu'il y a les. Je crois qu'il y a 132 photos de.
C'est le nombre de vos employés donc.
Le nombre d'employés à fin 2018. Voilà, on rencontre des foires. On a participé à 21 foires. On rencontre des.
Vous êtes à chacun de ces événements, vous y êtes présent.
Alors,
physiquement ?
J'ai été pendant des années, pratiquement à tous les vernissages. Maintenant, la chance que j'ai, c'est que ça n'est plus possible. Par moment, on fait 3 foires la même semaine.
Mais je me souviens de vous m'aviez raconté un jour, vous étiez entre la foire de New York et la foire de Chicago, et vous aviez deux jours de battement, et vous aviez emporté toutes les œuvres dans une valise.
Ah oui, non, jusqu'à il y a 2-3 ans, je faisais pratiquement tout. Chose importante avant qu'on sorte de la librairie, c'est on publie énormément de livres. Donc beaucoup des livres que vous voyez dans la librairie sont publiés par nous. On y est très attaché parce que les expos se remplacent les unes après les autres à un rythme effréné de toutes les 6 semaines. Et marquer un temps d'arrêt avec un livre ou avec le yearbook pour récapituler toute l'année précédente était un plaisir qu'on veut faire aux artistes et qu'on veut faire pour nous-mêmes.
Et puis pour vous, pour votre mémoire aussi, non ?
On vend aussi des posters pas chers, ce qui peut paraître une opération mercantile d'avoir des posters de Sophie Cal ou de Laurent Grasso ou JR à 20 euros. Mais évidemment, on a peu de chance de gagner beaucoup d'argent avec ça. Mais par contre, nous, on est très heureux que les gens puissent venir à la galerie et s'ils ont envie d'acheter quelque chose, ils peuvent le faire, tout le monde peut le faire. On oublie souvent que les galeries sont effectivement un loisir gratuit, qui paraît On parle toujours des excès du marché de l'art, on parle toujours des prix très importants.
Ce qui est drôle d'ailleurs, parce qu'on ne se plaint pas que Harry Potter ait rapporté des millions de dollars.
Parce que c'est des millions de producteurs, à ses auteurs. Rapporter.
Voilà. Alors qu'on se plaint toujours qu'il y ait trop d'argent dans l'art contemporain.
Alors que là, c'est des milliers de personnes qui vont permettre à tout le reste de l'humanité de pouvoir visiter des galeries gratuites. Et on n'applaudit pas suffisamment, effectivement, ce que le bonheur qu'offrent les collectionneurs. Qui rendent tout cela possible, parce que, soyons clairs, les expos de musées non plus ne pourraient pas exister, puisque la plupart des artistes ne pourraient pas produire leurs œuvres ou subsister s'il n'y avait pas des collectionneurs qui achetaient leurs œuvres. Et donc tout l'écosystème serait réduit à rien, et Dieu merci, il y a de plus en plus de collectionneurs dans le monde.
On va rentrer dans le sein des saints, la galerie Perrotin. Un vieil immeuble, de quand date-t-il, 17e siècle, comme tout, à peu près tout ce quartier.
Hein, on est actuellement sur un escalier Louis XIV.
Voilà, on est dans le Paris de Louis XIV d'ailleurs.
Hein, et c'était la maison du directeur de la Bastille.
Ah oui, il habitait là.
Ouais, d'où le petit.
Qui est mort le jour de la prise de la Bastille d'ailleurs.
Ah bah j'imagine. Mais il avait quand même dans sa maison deux tunnels pour sortir par l'arrière de la maison.
Ah bah il aurait dû les avoir à la Bastille, ça lui aurait permis de s'échapper.
J'imagine.
Alors, il y a actuellement une grande exposition Bernard Frise au rez-de-chaussée, un de vos artistes. Il y a Jean-Michel Le Toniel qui est au sous-sol.
Exactement.
Il n'est pas puni, mais c'est son autre exposition Oracle. Donc, des grandes salles.
C'est pas au sous-sol, c'est sous verrière. C'est un espace qui est à l'arrière.
Je dis au sous-sol parce qu'il faut descendre.
D'accord.
Pour y accéder. Ici, nous sommes dans une grande salle blanche avec d'énormes toiles de Bernard Frise, un artiste qui va être à l'honneur au Centre Pompidou, on va le voir tout à l'heure.
Exactement, on va le retrouver.
Vous allez nous le présenter.
Oui, on commence et on finit par lui.
D'accord. Bah, écoutez, on va faire une pause et puis on se retrouve dans un instant avec Emmanuel Perrotin, la galerie Perrotin, devant des tableaux de Bernard Frise.
Frédéric Taddeï, en balade avec Emmanuel Perrotin sur Europe 1.
Frédéric Taddeï est en balade avec Emmanuel Perrotin aujourd'hui, et c'est d'ailleurs dans sa galerie d'art contemporain qu'il a fondée en 1989 qu'on les retrouve.
Nous sommes dans la galerie Perrotin avec Emmanuel Perrotin. Un mot sur les tableaux que vous exposez de Bernard Frise, parce qu'il y a tellement de choses à voir dans cette galerie, elle est tellement grande, il y a 1600 mètres carrés je crois. Hein.
Il y a 2300 si on compte les showrooms, mais il y a 1600 d'espace là au 76 rue Tuan. Bernard Frise, c'est un artiste dont j'ai eu la chance de connaître le travail très jeune, quand j'étais assistant chez Charles Cartwright, on faisait des expos de groupe, et donc j'avais 18 ans quand j'ai dû le rencontrer pour la première fois, j'avais une admiration totale. J'imaginais pas une minute qu'un jour je pourrais le représenter.
Mais si, bien sûr, vous l'imaginez.
Et c'est
sûr.
Non, mais pas. Mais non, pas 18 ans. J'en avais aucun moyen d'imaginer ça. Mais Bernard Frise est un artiste qui était content de rentrer dans ma galerie aussi parce qu'à l'époque je ne représentais aucun peintre parce qu'il se considérait comme beaucoup plus conceptuel, beaucoup moins peintre que la plupart de ses collègues. Et ce qui l'intéresse, lui, c'est le processus qui va amener le résultat. Donc, certains des tableaux vont pouvoir ressembler à certains d'autres artistes, mais quand on connaît le processus qui a amené ça, c'est totalement différent. Alors, pour vous expliquer une très ancienne pièce, il prenait un bac en bois de la taille du tableau qu'il voulait réaliser et il remplissait de peinture avec de différentes couleurs et il laissait sécher. Et il revenait une semaine après et il prenait une première peau. La peau qui était en surface, il la collait sur sa toile et il revenait une semaine après prendre une deuxième peau qu'il collait sur une deuxième toile et ainsi de suite. Il faisait une série comme ça de 5-6 peintures. Mais ça donne des tableaux très différents, évidemment totalement
aléatoires.
Et là, l'expo donc, se répartit sur deux étages. Il y a un accrochage très light, il y a de la place et on retrouvera un accrochage très différent à Pompidou.
Qu'est-ce qu'il y a tout en haut en ce moment ?
Bernard Frise.
Que Bernard Frise ?
La Bernard Frise sur deux étages au 76 et passage Saint-Claude derrière. Nous avons Jean-Michel Otoniel où nous allons de ce pas. On prend un petit escalier en inox et on va passer par l'un des fameux tunnels
du directeur de la Bastille.
Voilà.
Balzac avait aussi un passage comme ça pour fuir les créanciers.
Alors, tu vois, j'ai des machines à compter dans toutes mes galeries pour le nombre de visiteurs. Et on s'était aperçu qu'on avait une déperdition énorme pour l'espace de passage Saint-Claude. Du coup, on a réouvert ce tunnel qui était fermé avec les accords des bâtiments de France, je vous rassure.
Et là, on arrive dans
le deuxième tunnel
l'autre bâtiment. où il y a l'exposition Jean-Michel Etoniel qui s'intitule Oracle, qui se tient jusqu'au 8 juin. On a l'impression d'être à la Banque de France et que ce sont des lingots d'or.
Ah bah voilà.
Bah si, regardez.
D'accord. Bon, il y a des briques, en
verre.
Ah
oui, ils travaillent sur les briques maintenant, mais elles sont dorées. Inox,
et toi, tu vois celle là-bas dorée. Je la vois plutôt jaune citron, mais tu vois, chacun ses.
C'est l'intérêt de l'art contemporain. C'est qu'on y voit un peu ce qu'on veut.
Un lingot d'or ?
Moi, j'ai dit lingot d'or.
Ah ouais, ouais. Lingot d'argent, à la limite, mais pas d'or. Merci, madame. Donc là, c'est comme un iceberg dans lequel on peut rentrer. Et c'est une agora. On peut s'asseoir dedans.
On est dans l'œuvre, là. Hein. C'est une très, très grosse œuvre. Dans ces cas-là, il n'y a qu'un musée qui peut acheter ça.
Non, c'est ça. En l'occurrence, c'est compatible en extérieur. Donc, on peut la voir dans un jardin. Ce qui demande beaucoup, beaucoup de travail pour l'artiste, d'ingénierie, d'être sûr qu'on puisse garantir que dans 10 ans, on ne nous reproche pas. Bon, c'est garanti de 5 ans, déjà. Mais il a eu, en faisant cette œuvre entre le Palais Royal et le Louvre, cette station de métro qui avait été...
C'est la station de métro réalisée par Jean-Michel Etoniel, voilà. C'est celle qui est juste devant la Comédie Française.
Voilà. Il a eu accès à beaucoup d'ingénieurs, de gens il a eu une expérience énorme à cette époque pour apprendre à faire des œuvres d'extérieur. Parce que tout ce que vous mettez à l'extérieur s'abîme extrêmement rapidement. Malheureusement.
En général, l'art contemporain, ça s'abîme beaucoup. Il y a beaucoup de matériaux qui ne sont pas très résistants. On se demande si ça restera.
Bon, ben finalement,
vous en inquiétez, vous ?
À partir du moment où ces œuvres ont pris beaucoup, beaucoup de valeur, on a toujours trouvé des moyens pour les restaurer. Là, en l'occurrence, c'est des briques qui sont produites en Inde.
On est devant les fameuses briques dorées qui ressemblent à des lingots d'or.
Voilà, enfin, vous serez déçus en venant. Mais, voilà, il y a une rivière bleue. Ouais. Là, tu y vois quoi ? Une rivière de l'art, tout de suite ? En français,
non, c'est vrai que là, ça fait de l'argent partout. Rivière bleue, là.
Rivière bleue, des icebergs. Bon, venez vous faire une idée, parce que des briques qui se transforment en rivière, il faut quand même avoir beaucoup d'imagination. Venez nombreux.
On va continuer notre balade avec Emmanuel Perrotin. On se retrouve dans un instant.
Frédéric Taddeï, en balade avec Emmanuel Perrotin sur Europe 1.
C'est dans le 3e arrondissement qu'on rejoint Frédéric Taddeï, accompagné d'Emmanuel Perrotin, qui lui fait visiter ses endroits préférés dans Paris.
Nous sommes sortis de la galerie Perrotin avec Emmanuel Perrotin. On est rue Saint-Claude. Comment s'appelle l'église qui est juste à côté de nous ? Je crois qu'il y a...
Il y a un Delacroix.
Oui, j'allais vous le dire.
Là, on est devant le café dans lequel je prends mes petits déjeuners. Et un jour, j'annonce à mon père que j'ai acheté un espace dans lequel on se rend au 60 rue de Turenne, qui celui-là est sur rendez-vous. Et il me dit, à droite ou à gauche de l'église ? Alors je lui dis, à droite. Il me dit, ah mais je t'ai peut-être pas dit, mais on s'est mariés dans cette église.
Vos parents sont mariés ici.
Et je regardais tous les matins cette église pendant mon petit déjeuner pendant 5 ans, et il avait oublié de me le dire.
Emmanuel Perrotin, vos artistes phares, on l'a vu, c'est Bernard Frise, il y a Jean-Michel Etoniel, mais il y a aussi Xavier Vélan, Sophie Cal, J.R., Maurizio Cattelan, Claire Tabouret, Wim Delvoye, Pharrell Williams, Takashi Murakami, Paola Pivi, Pierre Soulages, Héro, Hans Hartung, je ne peux pas tous les citer, il y en a une cinquantaine que vous représentez. Mais
il y en a un que beaucoup d'auditeurs connaissent, c'est Cause, quand même, que tu n'as pas cité. Cause a quand même... plus d'un million de followers sur Instagram. Il est une énorme vedette mondiale.
Mais il paraît que tous
ces phénomènes étonnants.
Il paraît que tous ces artistes, vous les avez quasiment séduits un par un, en rivalisant d'audace et de fantaisie. Est-ce que c'est vrai à chaque fois ?
Alors, ça a été vrai jusqu'à, je dirais, il y a 4-5 ans. Dans le sens où, pour persuader Sophie Cal, par exemple, de rentrer dans ma galerie, j'étais en compétition avec les plus grosses galeries de Paris. Et j'ai eu cette idée en lisant son livre... de réengager un détective privé qu'elle avait engagé 20 ans avant.
Oui, une de ses premières œuvres.
Voilà, une de ses premières œuvres. Et de la suivre pendant une journée, et en partant du principe que les 20 ans de décalage entre cette première filature et la deuxième auraient énormément de changements. Et elle a mis quand même longtemps à accepter, mais j'ai pu commencer à collaborer à partir du 16 avril 2001. Du coup, je me souviens de la date parce que ça correspondait à ce jour où elle a été suivie, où elle m'a annoncé qu'elle travaillerait avec moi. Mais quand je dis dans les dernières années, Encore une fois, je vais insister tout au long de cette journée sur le fait que j'ai une équipe qui travaille très très bien pour moi et qui et certains maintenant expriment leur goût, expriment leur choix artistique à travers des artistes. Et donc, certains artistes ont pu rentrer dans la galerie qui ont été amenés par d'autres. Mais c'est vrai que la plupart, il a fallu que je les persuade, surtout à une époque où la galerie était totalement inconnue et c'était beaucoup plus dur.
Maintenant, vous en avez 6 à travers le monde. Vous êtes certainement un des galeristes qui prend le plus de risques aujourd'hui, non ?
Là, on est en train de rentrer dans la salle de bal, vous allez entendre la clé.
La salle de bal, c'est votre showroom. Voilà.
Là où j'ai pris beaucoup de risques, c'est qu'effectivement, je n'ai pas bénéficié ni d'aide financière particulière. J'ai monté toute la galerie au fur et à mesure. Et ça a été très difficile, puisque je remettais à chaque fois tout l'argent sur le rouge. Alors après, quand ça marche, tout le monde a le sentiment que c'est facile. Mais en fait, j'ai eu beaucoup de difficultés pour arriver à ce résultat. Donc là, c'est, par exemple, c'est typiquement quelque chose que je n'avais pas d'obligation à faire. J'avais déjà une très belle galerie avec des bureaux dans lesquels on pouvait accrocher des œuvres des autres artistes.
Celle dont nous sortons.
Voilà. Mais je ressentais le besoin d'avoir un showroom de très grande taille pour pouvoir défendre tous les artistes de la galerie.
Puisque tous en même temps.
Tous en même temps et toute l'année, puisque vous avez des collectionneurs qui vont venir une fois tous les 2 ans à Paris. Et pourquoi ils ne verraient que l'expo en cours ? Pourquoi ils n'auraient un sentiment de notre galerie que sur l'exposition qui peut montrer un versant très particulier de notre programmation ? Et aussi, le problème quand vous n'avez pas beaucoup de showroom, c'est que vous défendez toujours les mêmes. Vous défendez toujours ceux qui rapportent le plus. Et vous n'aidez pas ceux qui ont plus besoin de se développer. Donc là, on est dans un... Alors moi, j'appelle ça la salle de bal. Je ne sais rien si c'était une salle de bal, mais c'est beaucoup plus élégant de dire salle de bal que
encore une
dire
fois, dans un très
soit.
Vieil hôtel particulier.
Voilà, puisque... Bon, là, c'est un bel endroit. C'est là où on fait nos dîners, qu'on fait des réceptions, qu'on fait des concerts.
On est dans l'hôtel des Quevilly, dit du Grand Veneur. Voilà. Là aussi, c'est le Paris de Louis XIV.
Donc là, on voit des œuvres de vraiment beaucoup d'artistes très différents. Alors, je vais citer ceux que tu n'as pas cités jusqu'à présent. Paola Pivi, Thilo Heinzmann, Hans Hartung, Libet. Johan Kreten, Bartiker, une artiste indienne. L'autre particularité aussi, c'est que j'ai des artistes vraiment de tous les continents. Là, j'ai pris un très jeune artiste sud-africain, parce que j'ai participé à la fois en Afrique du Sud et j'ai découvert un peintre qui m'intéressait, qui était très jeune, qui sortait vraiment d'un township, qui est autodidacte.
Comment s'appelle-t-il ?
Il s'appelle Simga Samson. Là, vous avez Elmgreen and Draxet. Et là, vous avez une salle qui, d'habitude, est en position de présentation encore une fois d'artistes, mais comme on est à la veille de la foire de Bâle, alors ouais, non, ça va, tu peux avancer parce qu'il y avait des choses un peu confidentielles, mais ça va, je vois que ça a été emballé.
Bon.
Là, c'est en
ça
mode,
sent bon
on
le
a que des caisses.
Ça sent bon le bois, hein,
voilà.
Tout est enfermé dans des caisses en bois. Ça n'en finit jamais, hein. C'est énorme.
C'est énorme. Mais, de nouveau, c'était très important de faire un outil de travail qui permette vraiment de défendre tous nos artistes et pas les seuls bankable. Voilà. Et donc, là, tu as une salle avec des panneaux coulissants qui est assez étonnante, qui permet de voir aussi beaucoup d'œuvres en une seule visite.
On ouvre des compartiments de bois et en sortent des œuvres d'art qu'on peut admirer, mais qui sont rangées le reste du temps. C'est un Murakami, exactement. Un Murakami qui vous doit beaucoup. Hein. Vous avez été le premier à le montrer hors du Japon.
Oui, en 93, je le découvre dans une foire à Yokohama. J'étais venu avec mes œuvres d'art dans mes valises. Et
Je vous suis, hein.
Il y a un petit passage secret. Voilà, et là, tu as une réserve, comme ça, qui est cachée.
Ouais. Ça, c'est les invendus. C'est votre fortune pour plus tard. Généralement, c'est les invendus qui rendent les galeristes riches.
Rien. Honnêtement, j'en sais rien. C'est souvent ça.
Ben oui, parce que quand vous regardez les premières œuvres de...
Je finirai pauvre, je vends tout.
Les premières œuvres de Murakami que vous avez vendues, vous avez dû les vendre quoi, quelques milliers de dollars, même pas, non ?
Ah non, j'ai vendu Damien Hirst, Maurizio Cattelan et Takashi Murakami à 500 dollars.
Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, ça vaut des millions de dollars. Donc, c'est, si vous en reste, là, vous êtes riche.
Faites-moi confiance pour dépenser beaucoup d'argent pour ne jamais en gagner suffisamment.
Bon ben, on continue notre balade avec Emmanuel Perrotin. On va sortir de chez lui et s'aventurer dans Paris, dans le Marais, dans le quartier des Galeries. Mais d'abord, on écoute La main parisienne, interprétée par Malcolm McLaren et Amina.
Malcolm voilà. McLaren était un copain.
Et oui, moi aussi, je l'ai bien connu. Et ben voilà, c'est son disque Paris, le fameux.
Ah oui. In this crowded desert, they call Paris. Mm-hmm. I've been watching you, watching me, watching you, and every time I think of you, I think, could this be love? Une ligne dans ma main, et tu es droit sur mon chemin, comme une enfant perdue, mon paradis c'est la rue. Tu me vois nue, je suis à nu. Tu me vois reine, c'est pas la peine. Aïe 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 aïe, ma vitrine est une vitrine parisienne. J'ai jamais parisienne. Watching you. Come on, monsieur, I take your hand. If you got some time to spend. Si je t'ai plu, n'en parlons plus. La tour Eiffel, Paris c'est belle. Aïe, 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 aïe. Ma vitrine est une vitrine parisienne. J'ai
C'était Malcolm McLaren et Amina, la main parisienne.
Jusqu'à midi et demi, vous êtes avec Frédéric Taddeï et Emmanuel Perrotin, le galeriste qui tient d'ailleurs à nous présenter une personne qui lui est chère et qui partage son goût pour l'art.
À deux pas de la galerie Perrotin, dans le Marais, il y a le musée Picasso, 5 rue de Torigny, dans l'hôtel Salé. Il est dirigé par Laurent Lebon, que vous allez nous présenter, hein, c'est ça ?
Laurent est un ancien conservateur du Centre Pompidou. C'est un garçon remarquable, que j'aime beaucoup, et qui dirige donc depuis quelques années le musée Picasso, dans lequel a été organisée il n'y a pas longtemps une exposition de Claude Ruteau. On ne va pas vous faire croire qu'elle a toujours lieu, même si c'est évidemment le bonheur de la
c'est
radio
un de, vos artistes, hein,
de pouvoir faire croire que l'expo... est toujours en cours.
Eh bien, il est voilà. Là d'ailleurs, le voilà. Bonjour Laurent Lebon.
Bonjour. Maître, comment allez-vous ?
J'adore l'idée. Si je pouvais être le maître des lieux, j'adore.
Mais vous l'êtes, cher ami. C'est un musée national, donc c'est le musée de tous, et notamment d'Emmanuel et de Frédéric.
De tous les contribuables.
De tous les contribuables, mais surtout de tous les passionnés d'art.
Là, on voit plein d'enfants rentrer.
Et bah oui. Et c'est gratuit. Scolaire. Et c'est gratuit.
Et c'est gratuit pour eux.
Voilà.
Ils ont tous des casquettes rouges.
Oui.
Picasso, les enfants adorent en général. Hein.
Bah oui, tout le monde adore. On a tous en nous quelque chose de Picasso, non ?
Vous croyez ?
Oui.
C'est drôle, vous avez à peu près le même âge tous les deux, non ?
Oui. Ouais. Au fond, Emmanuel a toujours été un modèle pour nous. Voilà.
Et donc, d'ailleurs, vous avez exposé Murakami à Versailles, c'était
voilà,
lui. Jeff Koons, peu avant, mais là, il était pour rien.
Xavier Veillant.
Mais Emmanuel est toujours pour quelque chose. Voilà, Xavier, bien sûr.
C'est
gentil. Et puis là, récemment, nous avons exposé Claude Ruteau.
Voilà. Qui est un artiste très important dans ma carrière. Je l'avais rencontré dès 88. En 89, je lui propose de faire ses archives. Il refuse. En 92, au moment de l'exposition à Pompidou, je lui propose de faire une expo. Il refuse. Et je suis revenu très longtemps après. Et finalement, on a réussi à collaborer ensemble. C'est un artiste qui a participé énormément à l'ouverture, à l'histoire de l'art pour moi. C'est un artiste dont le travail consiste à ce que vous achetez en fait un certificat qui décrit l'œuvre que vous aurez à réaliser.
Ah oui, c'est nous-mêmes qui la réalisons.
Exactement. Donc avec un point commun pour toutes ces œuvres, c'est qu'il faut qu'elle ait la couleur du mur sur lequel elle est inscrite. Et du coup, si vous avez un mur bleu, il faut la peindre en bleu. Certaines de ces définitions, méthodes, décrivent, donc par exemple, une équation par rapport à la taille du mur ou des règles de... Par exemple, tu vas acheter un carré, Laurent va acheter un rond, je vais acheter un triangle. Et tous les ans, il va falloir échanger cette œuvre. Et comme ton mur est beige, le mien est blanc et celui de Laurent et Rose, eh bien chacun d'entre nous va devoir acheter des contraintes, mais on va créer un lien entre nous, indélébile, avec une...
C'est là où on voit l'art contemporain, c'est un genre. Enfin, pour moi, c'est un genre, mais je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux. Est-ce que l'art contemporain est un genre à part, qui est né il y a un siècle avec Marcel Duchamp et qui s'est développé en marge de la peinture et de la sculpture, ou est-ce que c'est l'art contemporain, c'est l'art d'aujourd'hui, et en ce sens, Claude Ruteau, comme tous les autres artistes d'aujourd'hui, sont les héritiers de Picasso et avant cela du Caravage et de la Renaissance italienne.
Non, cher Frédéric, désolé, je mets ma petite casquette d'historien d'art, je serais plutôt dans votre deuxième acception du terme. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une énorme diversité. Voilà, on dit
qui est bien représentée par les artistes d'Emmanuel, d'ailleurs, qui sont très divers.
Effectivement, je crois qu'on regarde la liste et on ne peut pas définir une tendance, on ne peut pas définir un mouvement. Je crois que qu'est-ce qui fait le génie d'Emmanuel ? Pourquoi on l'aime tous ? Ben, c'est comme la phrase de Picabia, il a une tête ronde pour aller dans toutes les directions. Voilà. Et c'est un chercheur, c'est un regardeur, c'est celui qui sait aller avant tout le monde, là où se fait quelque chose qui nous bouleverse, quelque chose qui nous fait voir le monde différemment. Et ça aurait marché une année, ça aurait marché deux années, on aurait dit bon voilà, mais non, vous l'avez rappelé, son vieil âge, eh ben, il est toujours là, toujours présent et toujours plus jeune. Ça, c'est un peu inquiétant.
C'est vrai qu'il a
voilà, il doit avoir un truc.
Cette émission immédiatement, je trouve que c'est une très bonne conclusion, sympa.
Voilà, et je dois dire, et je le dis sérieusement parce que je travaille dans une institution, on le sait, et prenons l'exemple de Picasso. Le premier Picasso a été acheté par une institution publique nationale en 1933, c'est-à-dire 52 ans après la naissance de l'artiste. Vous voyez un petit peu l'effet retard. Les demoiselles d'Avignon avaient déjà un petit peu vieilli. Elles avaient même quitté le territoire pour rejoindre les États-Unis et ainsi de suite. Je crois que parfois, on ne va pas blâmer les institutions publiques parce qu'elles ont évidemment l'histoire devant elles, mais il nous faut des marchands, des galeristes, des collectionneurs pour anticiper et toujours avec des regards différents. Et je crois que le danger de votre première définition, c'est qu'on peut vite basculer dans le populisme, on peut vite basculer dans un certain poujadisme et mettre tout dans des cases, ça peut être complexe. Je crois que l'art est plus complexe et qu'aujourd'hui on a besoin de complexité, on a besoin aussi d'un petit peu de bonheur, comme je crois on le montre, y compris dans l'œuvre de Claude Ruteau qui n'est pas exempte du et puis aussi dans celle qu'on peut voir en ce moment au musée, Calder Picasso.
Il y a cette exposition Calder Picasso qui dure jusqu'au 25 août. Hein,
oui, voilà. 2019. C'est un duo. Les gens aiment bien les duos, aiment bien les pairs en ce moment dans le monde des expositions.
De tous ces grands peintres morts aujourd'hui, qui vous auriez rêvé de défendre ? S'il devait y en avoir qu'un, que vous pourriez ramener à la vie et l'avoir dans votre galerie, ce serait lequel ?
Marcel Duchamp, j'imagine, comme beaucoup d'entre nous. Pour reprendre ton exemple,
il reste plus grand chose à vendre.
Non, je sais, c'est peut-être pas le meilleur.
Mais c'est là, on reconnaît tout le génie d'Emmanuel. L'argent ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est la qualité de l'artiste.
C'est gentil, voilà. Laurent. Mais dis donc, qu'est-ce que j'ai fait pour tenir autant de lauriers ? Laurent, ton exemple sur le temps qu'a mis l'institution pour acheter Picasso me permet finalement de d'espérer que Murakami finira par rentrer dans une institution française.
Oh, tu sais.
Tu vois, il y a peut-être une chance quand même. Il n'y en a aucun.
Tu sais, Emmanuel, dans ces fameux classements d'artistes que tu connais par cœur, regarde-les. Et très peu sont présents dans les institutions.
Non. À sa mort, Basquiat, il y avait un tableau qui avait été acheté par les musées français. Je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup plus par les musées américains.
J'en avais vendu un quand j'étais assistant chez Charles Cartwright, 70 000 francs. C'était assez.
Voilà. C'était déjà pas mal, hein. 70 000 francs, c'était cher.
S'il était vivant.
Et oui. Là, voilà. On est au milieu des œuvres de Miro qui réjouissent tout le monde.
De Calder, cher Frédéric. Oui. Mais votre lapsus n'est pas du tout grave, car au fond, il y a une grande communauté d'esprit entre Calder, Miro et Picasso. Je crois que c'était un moment, notamment dans les années 20 et 30, où nous sommes, où ils étaient ensemble, et ils ont notamment travaillé tous sur ce thème fantastique des constellations. Je crois que ça rejoint un petit peu la
d'où vie. Les mobiles, d'ailleurs, les mobiles de Calder.
Et il y a un lien avec ce que vient de dire Emmanuel, parce que vous savez... Vous connaissez sans doute cette anecdote. On est d'ailleurs devant un des chefs-d'œuvre de Calder. C'est une de ses premières œuvres exposées à Paris. On est en 1931-1932. Qu'est-ce qui se passe ? Picasso rentre dans cette galerie et tombe en pamoison. Il trouve que c'est un chef-d'œuvre. Il y a un autre artiste qui rentre.
Ce sont des fils de fer, voilà. Avec des boules.
Les dessins dans l'espace. Marcel Duchamp rentre et demande à Calder : mais comment tu appelles tes sculptures ? Je n'ai pas de nom. Eh bien, je vais t'en proposer un. Mobile. Eh bien, depuis, regardez, toutes les écoles du monde. Créer des mobiles. Voilà, mais ça encore, c'est un exemple d'un artiste qui a su révolutionner notre regard, qui a su défendre quelque chose de différent. On le voit d'ailleurs dans la salle d'à côté, sur les fameux dessins dans l'espace. Qu'est-ce qu'il y a de plus magique que ces extraordinaires sculptures faites d'un seul fil de fer ? On le tord, on peut essayer d'ailleurs chacun ce soir. Alors évidemment, dans le monde radiophonique, c'est un peu plus difficile, mais j'engage les auditrices et les auditeurs à se lancer. Et regardez, Joséphine Baker, hein. Elle est là, elle nous fait rêver.
Et elle bouge.
Et pourtant, elle bouge.
Voilà. Et elle bouge comme personne.
Voilà. Donc, je crois que là, on a quelque chose qui est au cœur même de ce débat de l'art contemporain que vous rappeliez tout à l'heure. On oppose parfois le monde de l'artisanat et le monde de l'art contemporain, le concept et la maîtrise d'une technique. Et bien là, on le voit avec Calder. On a un génie bricoleur qui nous fait rêver. Regardez l'acrobate de Picasso qui dialogue avec l'acrobate de Calder. Ce monde du cirque qui les enchantait, au fond... Je crois que c'est ça qui nous emporte, hein. C'est ça qui nous fait voir le monde différemment. Ce sont ces artistes qu'on voit à la galerie d'Emmanuel et qu'on voit ici. On oppose parfois public et privé, mais non, je crois qu'il ne faut pas les opposer. Ils sont en harmonie permanente.
On va vous laisser dans votre paradis, Laurent Lebon.
Qui est le vôtre, cher Frédéric, en tout cas celui de celles et ceux qui aiment l'art, et vous en êtes tous les deux au premier chef.
On va continuer notre balade avec Emmanuel Perrotin. Merci, Laurent.
Un grand merci à vous.
Frédéric Taddeï, en balade avec Emmanuel Perrotin sur Europe 1.
C'est dans le Marais qu'Emmanuel Perrotin a construit la plus grande partie de sa carrière de galeriste. Et c'est justement là-bas qu'on le rejoint avec Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Emmanuel Perrotin, le galeriste français le plus international. Et pourtant, toute votre vie, semble-t-il... s'est déroulé dans un mouchoir de poche, hein, dans ce marais que nous sommes en train de parcourir. Tout s'est passé là.
Voilà, par une petite incursion de 6 ans dans le 13e arrondissement, rue Louise Weiss, effectivement, j'ai été assistant de galerie chez Charles Cartwright, rue des Archives, où nous sommes en train de nous rendre. Et j'ai maintenant ma galerie rue de Turenne. Et j'ai pu travailler dans beaucoup d'espaces qu'on va visiter. Mais là, on est justement dans une rue...
La rue Charlot.
La rue Charlot, où s'est passée une... Une anecdote amusante, je suis abordé par un monsieur qui me dit « Voilà, j'aimerais faire un portrait de vous ». Alors je dis « Qui êtes-vous, monsieur ?»
Vous aviez quel âge à l'époque ?
Je dois avoir 20 ans ou 21 ans. Et ce monsieur me dit « Oui, vous voyez, je voudrais faire un portrait pour rendre hommage à un passant inconnu ». Et je dis « Monsieur, ça a déjà été fait en 68 par Braxo Dimitrievitch, vous devriez vous renseigner parce que ça a été montré boulevard Haussmann et ça a été retiré par les pompiers ». Et là, je vois le monsieur totalement effaré qui se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc je laisse tomber, je repars et 6 mois après ou 1 an après, je découvre que c'était le portrait qui allait figurer dans l'exposition « Les magiciens de la Terre » sur la façade de Pompidou en géant. par Braxo Dimitrievitch, parce que c'était lui qui m'avait interpellé. Et si j'avais enfin fermé ma gueule, si j'avais rien dit et qu'il avait fait le portrait, eh bien, peut-être chance que je fasse un hold-up de communication pour l'époque en étant en immense sur la façade.
Nous voilà au 36 rue des Archives. Alors, je crois que là, ça a été votre premier job. Vous aviez 16 ans.
Alors, j'ai commencé à travailler à 16 ans, mais dans d'autres domaines d'activité, j'ai fait plein de petits boulots. Et à 17 ans, je suis rentré dans la galerie de Charles Cartwright. Alors, ça s'est fait très rapidement parce que je côtoyais une jeune femme qui s'appelait Noémie Brownstone, qui était la fille de Gilbert Brownstone. Et elle m'avait emmené dans un vernissage de son père. Et à cette occasion, je m'étais rendu compte que les galeries, ça ouvrait à 14 heures. Donc, je m'étais dit, formidable ce métier où je peux continuer à avoir ma vie nocturne. Un garçon qui, à la fin de ses 17 ans...
Vous étiez beaucoup au palace.
Exactement.
Plus tard, vous serez au baron.
Voilà. Et puis, une copine de boîte de nuit me présente Charles Cartwright, qui me demande de travailler pour ses études. Alors, moi qui avais quitté mes études très jeune, c'était un peu bizarre. Mais donc, je vais aller partir faire des recherches dans une ambassade. Et le jour où je suis revenu au 36 rue des Archives pour lui rapporter ses recherches, je suis accueilli par une femme qui est la directrice de la galerie qui me dit « Emmanuel, c'est vous, je suis très content de vous rencontrer, c'est parfait, il faut que je parte, voici les clés de la galerie, voici le code de l'alarme, vous revenez demain matin avec les clés. » Il était 15h de l'après-midi, il fallait que je reste jusqu'à 19h, je ne connaissais rien de rien et j'étais tout seul dans la galerie. Je vous rassure, à l'époque, il y avait très peu de visiteurs dans les galeries. Mais c'est
surtout
quand même
que c'est une galerie en étage, hein, celle-ci.
Ah oui, c'est en premier étage. Et c'est devenu maintenant les ateliers de Renzo Piano, ce qui est amusant puisqu'on va rejoindre une sculpture réalisée par Xavier Veillant qui rend hommage aux deux architectes du Centre Pompidou, dont Renzo Piano.
On la verra tout à l'heure, effectivement. Enfin, on la verra, c'est une façon de parler dans cette émission, mais elle est juste à côté du Centre Pompidou. C'est ici que vous avez exposé Marina Abramović.
On a absolument exposé Marina Abramović, qui était aussi une expérience merveilleuse. Là, c'était une exposition personnelle. Charles Cartwright avait un œil extraordinaire. J'en parle au passé, il est toujours vivant, Dieu merci. Il avait 23 ans quand il était mon employeur. Il avait un talent fou pour reconnaître les artistes avant tout le monde. Et grâce à lui, on a pu travailler avec des artistes comme Helmut Federley, Georges Condo. Et véritablement, tout s'est joué pendant ces 4 ans chez Cartwright.
J'ai l'impression que parmi les choses qu'on vous doit, Emmanuel Perrotin, vous avez certainement participé à rendre l'art contemporain ludique et festif. Pendant un temps, vous étiez très célèbre pour vos fêtes, par exemple. Il y a toujours des fêtes extraordinaires dans vos galeries successives. Et vous avez participé à ça en liant l'art contemporain avec la mode, avec la musique, avec le design.
Oui, je, quand j'ai commencé ma carrière, même en tant qu'assistant, il n'y avait aucun espoir de voir l'art contemporain figurer dans les magazines, dans à la radio.
Ça n'intéressait que les mordus.
Ça n'intéressait très peu de gens. Et finalement, moi, j'avais voulu offrir une voix aux artistes. Et il fallait passer par d'autres domaines artistiques. Et on a finalement, à travers les fêtes, c'était aussi les fêtes, parce que, bon, j'étais jeune galeriste, donc j'aimais bien faire la fête. Mais en plus, j'aimais bien inviter les gens à des fêtes auxquelles j'aimerais être invité. Donc il fallait qu'il y ait une scène musicale intéressante. On a fait des concerts incroyables. On a pu faire Massive Attack, Woodkid, Pharrell Williams, Feist, Jamie Liddell, Gonzalez, Sébastien Tellier, Juliette Armanet, Chatterton. Enfin, on a fait énormément de concerts. Je ne pourrais pas vous les citer tous là. Ça a été,
mais je me souviens que vous n'hésitiez pas. C'était dans votre galerie de la rue Louise Weiss, à une époque où il y avait plein de jeunes galeries dans le 13e arrondissement. Vous étiez resté pendant une semaine, je crois, déguisé en lapin. C'était Maurizio Catalan qui vous avait mis au défi.
Oui, alors là, c'était pas le côté festif, c'était plus...
Ah, c'était très ludique.
Essayer de montrer le rôle du marchand qui censure, qui peut censurer la créativité en refusant de produire des œuvres d'art ou en refusant de les exposer. Et là, il était évident que je ne pouvais pas accepter, contre mon gré, d'endosser un costume de lapin en forme de phallus et de m'affubler du nom Hérotin le vrai lapin. Tout se passait évidemment... par mon désir et mon acceptation de changer ma vie, puisque on est en 95 là, à partir de 1995, pour tout le monde. Je suis Hérotin, le vrai lapin. Ce qui transforme votre vie personnelle.
Oui, ce qui ne contribue pas à ce qu'on vous prenne au sérieux.
On ne prend pas au sérieux et en même temps, c'est amusant. Et surtout, quand Maurizio va devenir un des plus grands artistes...
Je rappelle que c'est Maurizio Gattalan qui a fait cette œuvre très connue. On voit Jean-Paul II abattu par un météorite.
Voilà, il a battu le record du Guggenheim du nombre de visiteurs. Et c'est un artiste passionnant, énorme, d'avoir pu participer à son travail en donnant de moi-même, si vous
même
voulez.
Même déguiseur lapin, en phallus.
Surtout qu'à l'époque, l'artiste, ne valant pas un sou, il n'était pas du tout en position de me forcer à le faire.
Eh bien, puisque dans ce quartier, toute votre vie s'est déroulée, vous êtes toujours un peu sur la route de chez vous, on va écouter Holzinger qui interprète « On My Way Home ».
Crack in the clay as it rises. More to see, baby, but you must close your eyes. Close your eyes. There's tales of a hero that were buried there for years. Streets of legend you can never ever find. Voices that laugh like a dog in the night. Sometimes you can find it all again. You'll find it all again.
C'était Holzinger qui chantait On My Way Home. On est à deux pas du BHV où Marcel Duchamp avait acheté son porte-bouteille. À trois pas de votre première galerie, on continue notre balade avec Emmanuel Perrotin.
La balade de Frédéric Taddeï et Emmanuel Perrotin continue et elle continue dans le passé. Frédéric s'intéresse au choix qu'a fait le galeriste.
Nous voilà maintenant rue de Brac, toujours dans le Marais, toujours dans le Paris Louis XIV. Toutes les façades nous rappellent le XVIIe siècle avec leurs hautes fenêtres, leurs pierres de taille, leurs vieilles lanternes. Et vous, qu'est-ce qui vous est arrivé ici ?
Eh bien, en fait, Charles Cartwright a décidé de changer d'espace et on est allé dans ce premier étage qui était magnifique. Simplement, il y avait beaucoup de travaux à faire. Donc, j'étais payé le SMIC et je faisais, en plus d'assistant de galerie, je faisais les travaux. Alors, je le faisais avec une équipe. Je peux remercier Stephen O'Reilly, qui était un garçon qui m'a tout appris dans le bricolage. Et c'est très important parce que je vais changer 18 fois d'espace. Et c'est vrai que quand on parle à des entrepreneurs, on sait à peu près de quoi on parle. Donc, ils peuvent un peu moins abuser de vous. Et en l'occurrence, ça avait été un gros chantier et c'était une très belle galerie à la fin.
Mais la question que je me pose, c'est pourquoi vous êtes devenu galeriste ? Vos parents ne travaillaient pas dans l'art. Pourquoi vous avez voulu devenir non seulement galeriste, mais le roi des galeristes français ?
Alors quand j'avais 16 ans, je faisais plein de petits boulots. Je me passionnais pour un peu tous les domaines artistiques. J'avais fait le lycée autogéré de Paris. Et au lycée autogéré de Paris, on faisait du théâtre, on organisait des concerts, on faisait tout en votant à main levée. On avait une voix, les professeurs avaient une voix chacun. Donc
c'est ce qu'on appelle un lycée autogéré.
Exactement. À l'époque, ça l'était vraiment. Et du coup, je n'étais pas fixé sur le domaine dans lequel j'allais travailler. Et puis, en découvrant la galerie d'art contemporain, j'ai découvert que les artistes étaient à la charnière de tous les autres domaines. L'écriture avec les artistes comme Sophie Kahl qui écrivent des autobiographies, le cinéma avec la vidéo, le théâtre avec la performance. Et tout ça me permet, finalement me ravissait. J'étais très heureux en tant qu'assistant. Et au moment de cette galerie rue de Braque, je vais finalement prendre une position assez importante dans la galerie parce que mon patron, qui était un garçon très beau, mais il était un peu dandy, et donc il ne mettait pas ses lunettes. Et il ne reconnaissait pas les gens qui rentraient devant son bureau. Et donc, au bout d'un moment, les gens pensaient qu'il était prétentieux puisqu'il ne se levait pas pour venir leur parler. Et donc, très rapidement, beaucoup de gens vont s'adresser à moi au quotidien. À tel point que quand je quitterai cette galerie à l'âge de 21 ans, les artistes pensaient que j'étais associé dans la galerie.
Nous voilà maintenant de retour rue Charlot, et c'est ici, rue Charlot, que vous avez décidé de voler vos propres ailes. Hein.
Oui.
Pourquoi ?
Mon patron, Charles Cartwright, qui avait l'ambition d'ouvrir un deuxième espace pour la galerie, avait pris un petit espace, qui est maintenant un magasin de mode, pour faire une programmation parallèle. Et comme à mon habitude, je me suis retrouvé à faire plein de travaux. Et donc j'ai retiré quand même jusqu'à 4 épaisseurs de carrelage pour ramener le sol à une hauteur sous plafond correcte, refaire les murs.
C'est vous qui avez fait tout ça ?
Je le faisais avec le fameux Stephen O'Reilly et Seamus Farrell, qui m'ont appris beaucoup à l'époque, une bande d'Irlandais très sympa. Et à la fin des travaux, alors que je m'étais mis en tête qu'il allait me confier la programmation, puisque je lui proposais régulièrement des artistes, j'allais dans les foires, je payais sur mes deniers personnels en faisant plein de boulot, tout un tas de voyages, je voulais lui proposer de faire des artistes grenoblois qui étaient Dominique Gonzalez-Foster, Pierre Joseph, Philippe Parreno et Bernard Joysten.
Qui sont devenus assez connus tous.
Alors ouais, c'est ça la bonne nouvelle, mais il va refuser. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est qu'il décide finalement, à la fin des travaux, de revendre le bail de l'espace. Et donc, j'étais payé au SMIC pour faire des travaux, pour finalement que lui gagne de l'argent sur le bail. Du coup, c'en était trop. Et je ne sais pas quelle arrogance m'a poussé à penser que je pouvais ouvrir une galerie moi-même. Et voilà que je suis à 21 ans. Charles Cartwright va quitter son appartement de rue de Turbigo.
Encore à deux pas.
Encore à deux pas. Et je vais lui dire, est-ce que je peux reprendre ton appartement ? Et je vais lui annoncer que je vais ouvrir ma propre galerie.
Dans votre appartement, non ?
Dans mon appartement, oui, j'avais pas eu moyen de faire autrement quand même.
On continue notre balade avec Emmanuel Perrotin, juste après les infos.
Frédéric Taddeï, en balade avec Emmanuel Perrotin sur Europe 1. Europe 1, en balade avec Emmanuel Perrotin. Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours en balade avec Emmanuel Perrotin. On vient de le quitter juste avant les informations quand il ouvre sa première galerie à l'âge de 21 ans dans son appartement à l'époque. Aujourd'hui, quelques années ont passé. Il a 6 galeries dans le monde, à New York, à Shanghai, à Tokyo, à Séoul, à Hong Kong, à Paris, bien entendu. Et petit moment d'émotion, nous voilà à côté du Café Beaubourg, devant les statues de représentant Renzo Piano et Richard Rogers, les architectes du Centre Pompidou, deux statues réalisées par Xavier Veillant, un de vos artistes.
Voilà, c'est un moment très important dans la carrière d'un galeriste quand on peut placer des œuvres dans l'espace public. On a par exemple Jean-Michel Autoniel avec la station de métro entre le Palais Royal et le Louvre. Et là, cet hommage à ces grands architectes, à un endroit où j'ai passé une grande partie de ma vie, là, à 21 ans, j'étais tous les jours au Café Beaubourg, qui était le filtre pour rencontrer des gens importants dans le milieu de l'art. Et d'ailleurs, on va aller rencontrer Bernard Frise là-bas.
Bernard Frise, le Centre Pompidou lui fait sa rétrospective.
Bernard Blisten a eu la gentillesse de l'inviter à faire cette exposition.
Le président du Centre Pompidou.
Voilà. Non, pas le président, le directeur.
Pardonnez-moi.
Et voilà, alors on va chercher Bernard dans le café.
Le voilà.
Voilà Bernard Frise.
Bernard, je te présente Frédéric.
Bonjour monsieur.
Bonjour. Vous êtes dans le coin des habitués, c'était le coin des habitués ici. Hein.
Absolument, ah oui.
Bernard Frise, est-ce que vous êtes content d'avoir une rétrospective au Centre Pompidou ?
Extrêmement content. Mon galeriste est très content aussi.
Votre galeriste, c'est Emmanuel Perrotin. Vous voulez dire que votre code va monter immédiatement ?
Ça, je ne sais pas, ce n'est pas mon problème immédiat.
C'est le problème du galeriste.
Voilà. Je pense que c'est une émotion énorme de faire une exposition à Pompidou. C'est comme une consécration en France, c'est incroyable. Mais
c'est
pour toi.
L'article de la mort.
Ah oui ?
Ouais, un peu, non ?
Je sais que Jeff Koons a fait des pieds et des mains pour en avoir une. Il n'en a pas eu une vraie, mais enfin, on s'est arrangé pour que...
Il a eu une reprise d'exposition, il en
voilà.
a eu une.
Oui, mais enfin, ça a fait polémique. Et pourtant, c'est l'artiste le plus cher du monde. Il était tout content d'avoir un...
Ben moi, je ne suis pas l'artiste le plus cher du monde et j'ai quand même une exposition au Pompidou.
Voilà, et vous, ça ne fait pas polémique.
Pas vraiment, non. On espère que ça ne fasse pas trop indifférence.
Pourquoi vous vivez à Berlin ?
Ouais, j'aime bien. J'aime bien.
Comment ça se fait qu'il y a autant d'artistes à Berlin ?
Parce qu'autrefois, c'était une ville pas chère.
C'est les loyers qui étaient pas chers.
Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, les artistes, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et donc, ils habitaient à Berlin. Mais aujourd'hui, la spéculation est tellement énorme que je ne sais pas si ça va durer.
Et il y a des boîtes de nuit extraordinaires, des fêtes. Vous les fréquentez ou...
J'ai une boîte de nuit à 30 mètres de chez moi, que je vous recommande. C'est une boîte échangiste.
Ah, aussi, en même temps. Comment y a-t-il Emmanuel Perrotin en tant que marchand ?
Il a l'air rigolo comme ça, mais en fait, c'est un marchand très sérieux. Et c'est un marchand qui travaille beaucoup et qui fait beaucoup pour ses artistes.
Il semble une boule d'énergie. On a l'impression que rien ne le démonte jamais.
Ouais, enfin, je crois que si. Il y a des choses qui le démontent. Je pense qu'il est très malheureux par certains moments quand les choses ne marchent pas aussi bien qu'il aimerait. Mais
il repart aussi sec.
Ouais, c'est ça. Il a une bonne capacité à rebondir.
Je me souviens... Au moment où il y a la crise des subprimes, ça doit être en 2008, vous êtes obligé de fermer votre galerie à Miami. Vous avez des tas d'achats qui sont annulés. Et vous faites une énorme fête à Bâle, à l'époque, à la foire de Bâle.
Alors, je comprends que ça a été perçu comme ça à l'époque, que je fermais la galerie de Miami à cause de la crise. C'est vrai que j'ai divorcé à ce moment-là. J'ai passé 9 mois à l'hôtel et j'ai travaillé comme une brute parce que j'ai eu beaucoup d'annulations d'œuvres et j'étais vraiment en péril. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'avais fermé la galerie de Miami, c'était prévu avant. Je savais que j'allais vouloir ouvrir ailleurs, dans un autre pays.
En tout cas, moi, ce dont je me souviens, c'est qu'à Bâle, à ce moment-là, tous les galeristes font profil bas, c'est la crise, et vous décidez de faire une énorme fête.
Et on a eu ce premier
avec Pharrell Williams.
Voilà, ce premier concert de Pharrell Williams qui était incroyable, voilà. Qui était improvisé.
Et tout le monde vient dans votre fête, parce que les autres faisant profil bas, c'est pas très rigolo. Et je me souviens que vous avez vendu une pièce 2 millions de dollars ce jour-là.
Oui, tout à fait. Mais oui, j'avais fait ce pari que tout le monde couperait le budget fête à ce moment-là et que du coup, si on faisait une fête, eh ben, ce serait la fête la plus sympa.
Vous aimez les fêtes, Bernard Frise ?
Surtout les fêtes d'Emmanuel.
Il héberge actuellement le DJ de cette fête.
Quel DJ ?
Samuel Boutruche, qui faisait l'entrée du Baron au début.
Le Baron, qui est une boîte de nuit branchée, qui a duré quelques années.
Oui, oui.
Ah, qui a duré longtemps, qui a été un des grands
moments. Je ne pensais pas que Bernard Frise connaissait le Baron. Et comme quoi ?
Vous me prenez pour qui ?
Non, mais pour un type studieux.
Bernard est très copain avec toute la bande du Baron. Tu serais très surpris.
Eh bien oui, mais je suis ravi pour lui. Non, parce que c'est vrai, Dieu sait s'il y a des couleurs dans vos toiles. Mais on a jamais l'impression que c'est si important que ça, les couleurs que vous utilisez.
Non, c'est pas du tout important.
Hein, on est,
non,
je suis bien d'accord.
Non,
ouais.
Pas du tout. Ouais.
C'est pour ça donc, qu'on vous imagine pas au Baron.
Le Baron, là, c'est plutôt la nuit. Donc la nuit, les chats sont gris, hein, quand même, non ?
Est-ce que vous avez le trac ?
Non, le track, j'ai pas le track, non, j'ai pas le track. Non, je suis enthousiaste.
Et puis, de toute façon, c'est une rétrospective. Est-ce que vous avez le track quand vous faites une nouvelle expo et qu'il va falloir vendre ?
Non.
Non plus ?
Moi, non. Vous savez, moi, je fais les tableaux à l'atelier et je les fais pour moi. Et ensuite, je les rassemble et je fais une exposition. Je fais pas les tableaux pour les vendre, je fais les tableaux parce que je les aime et que j'ai envie de les faire.
Et ben, on va aller voir ça. On vous laisse là, Bernard Frise, vous venez avec nous ?
Je peux finir ma bière ?
Oui,
bien sûr.
Frédéric Taddeï, en balade avec Emmanuel Perrotin sur Europe 1.
Comme chaque dimanche, de 11h à 12h30, vous êtes en balade avec Frédéric Taddeï. Frédéric qui s'intéresse aujourd'hui au galeriste Emmanuel Perrotin. Et pour en apprendre plus, ils ont été rejoints par un autre artiste.
Nous entrons maintenant dans le centre Pompidou par une entrée secrète. Avec Emmanuel Perrotin, avec Bernard Frise. On est au rez-de-chaussée, là.
Et c'est ici que va se dérouler la rétrospective de Bernard Frise que vous découvrez, Emmanuel Perrotin.
Alors je découvre, on est en plein accrochage, on est très loin d'avoir fini. Je commente tout en découvrant Angela Lempe qui vient nous rejoindre.
Bonjour Angela.
Commissaire de l'exposition.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice au musée, au Centre Pompidou. Et c'est vous, oui, la commissaire de l'exposition Bernard Frise.
Tout à fait.
Le voilà, vous le connaissez?
Oui, bah, par la force des choses, je le connais, oui, maintenant.
Il va y avoir combien d'œuvres exactement?
64 exactement.
64, c'est pas mal.
Sur 800 mètres carrés, c'est beaucoup.
Ouais, ouais. Et donc là, vous voyez, donc on est encore en accrochage, c'est encore un chantier, mais il y a quand même déjà des très belles toiles qui sont accrochées.
C'est l'éclairage qui, évidemment, peut nous perturber pour l'instant. L'éclairage n'est pas du tout travaillé pour l'instant.
On est en train de justement travailler, mais là, on voit quand même déjà les œuvres majeures qu'on a accrochées. Et on voit aussi un peu, je pense, enfin j'espère en tout cas, l'esprit de l'exposition, avec des sections qui se suivent, selon un système volontairement paradoxal. Donc c'est sans système, avec système, c'est avec maîtrise, c'est sans arrêt. Donc il y a vraiment un jeu avec les préfixes, sans et avec. Et ici, on est dans une salle sur la maîtrise et sur la grande virtuosité qu'a l'artiste. Et donc des vents d'étoiles comme Travis, qui est je trouve vraiment saisissante et très, très singulière par rapport à la scène internationale. Donc c'est vraiment un artiste tout à fait exceptionnel.
Et d'ailleurs, il s'est éloigné pour ne pas entendre les compliments, vous avez remarqué.
Je regardais si la peinture de la Tate Gallery était arrivée.
Voilà. D'accord. Il y en a une qui arrive de la Tate Gallery.
Tout à fait. Hein, donc, il y a la Tate Gallery. Il y a aussi le Kunstmuseum de Bâle. Hein, donc, il y a quelques prêteurs quand même importants.
Tu remarqueras que l'expo de la galerie est résumé sur trois séries récentes, alors que là, tu as évidemment une créativité incroyable, puisque c'est une explosion de variété d'œuvres d'art, comme peu d'artistes pratiquent de nos jours. Souvent, ils sont focalisés sur une même manière.
Oui, ils refont quand même éternellement la chose qui les a rendus célèbres.
Justement, en train de passer, il y a la photographie aussi. Ça, c'est quand même une révélation. C'est peu connu que Bernard Frise aussi a ce consacré à la photographie et a fait cette très belle série à Los Angeles en 2006. Bon, il peut en parler lui-même.
Qui n'est pas dans l'ordre.
J'imagine qu'il y aura la sculpture aussi.
Il y a des sculptures aussi qui vont arriver jeudi, en effet. Donc, il y a vraiment les trois médiums. Et qui vraiment, ça montre vraiment la profondeur de son œuvre.
Vous êtes connus en Allemagne, tous les deux ?
Au Pompidou Metz.
Tout à fait, avec cette peinture d'ailleurs qui se trouve là, vue d'en haut. Et c'est une exposition que je fais au Centre Pompidou Metz sur justement la vue d'en haut. Et donc c'est une peinture assez, assez amusante parce que on voit, enfin c'est fait à partir d'un dessin d'enfant, et qui montre donc un Mexicain avec deux œufs sur le plat. Vu d'en haut, et donc du coup, vu d'en haut, ça devient vraiment une peinture abstraite, mais finalement, c'est une...
Ce qu'on voit d'en haut, c'est plutôt... son sombrero.
C'est ça.
Est-ce que c'est la période de Lucien Durand, cette peinture ?
Qui est Lucien
99
Durand.
Ans, le père de Guillaume Durand, qui a 99 ans.
Qui était son premier galeriste.
Et qui a une particularité incroyable, Lucien, c'est que dès qu'un artiste commençait à avoir du succès, il lui disait « Écoute, là, t'es un peu trop gros pour moi, donc ce serait bien qu'on te trouve une galerie. »
Il n'y a pas beaucoup de galeristes qui font ça. Hein. Emmanuel Perrotin, lui, il s'accroche. Il ne veut pas vous laisser partir. Bah, oui. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez ouvert 6 galeries dans le monde. C'est pour les occuper, pour qu'ils soient toujours chez vous. Qui veuillent être à Hong Kong, à Séoul, à New York, à Tokyo ou à Paris, ils sont chez vous. Quoi.
Effectivement, sentir surtout que les autres galeristes ne puissent pas, du jour au lendemain, vous prendre piquer. L'artiste. Et, c'est effectivement une grosse inquiétude. Tu en rigoles, mais moi, j'en rigole pas.
Non,
ça a été une de mes énormes
missions. Je sais que pour les galeristes,
c'est de les garder.
C'est le grand truc, c'est de les garder.
Oui, je pourrais avoir une liste d'artistes pléthoriques dans l'histoire de ma galerie. Si je les avais perdus au fur et à mesure, je pourrais annoncer beaucoup plus de noms prestigieux. effectivement, c'est pas très impressionnant, Malice, mais la seule chose qui a été, j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'ils sont restés fidèles.
Enfin, dès les premiers, il y a eu Damien Hirst, par exemple.
Oui, oui, bien sûr. Mais
il est parti tout de suite.
Oui, mais bon, là, on est en 90, je sors mon matelas du placard dans l'espace d'exposition, et lui, 6 mois après mon expo, il produit un requin dans du formol.
Et il devient célèbre.
Et il devient très célèbre.
Donc, et aujourd'hui, c'est l'un des artistes les plus chers du monde. Il paraît que vous êtes le seul à n'avoir jamais gagné d'argent avec Damien Hirst.
Oui, j'ai ce tête dans mon tableau de chasse, j'ai ça, oui, mais j'ai gagné un petit peu d'argent, mais enfin, c'était vraiment minable par rapport aux autres.
Eh bien, puisque nous sommes au Centre Pompidou et que le soir du vernissage de Bernard Friis, ce sera un peu le centre du monde, ici même, écoutons Ici Paris, Allô le monde.
Vous croyez peut-être que nous sommes seuls dans l'univers, que ces milliards d'étoiles sont désertes. Ne croyez pas cela. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes plus seuls.
Allô, le monde, ici Paris. On signale sur tout le pays. Des créatures ou de cauchemars. Moitié robot, moitié cafard. Allô, le monde, ici.
Paris, allô le monde, on se retrouve dans un instant, toujours au Centre Pompidou, avec Emmanuel Perrot.
C'est dans le Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou que se termine la balade de Frédéric Taddeï et du galeriste Emmanuel Perrotin, et ils ne sont pas seuls d'ailleurs pour la fin.
Nous sommes au Centre Pompidou, les premiers visiteurs de la grande rétrospective Bernard Friis, intitulée Bernard Friis sans repentir, qui se tient ici jusqu'au mois d'août. Nous sommes avec Emmanuel Pierrotin, avec Bernard Friis et avec Angela Lampe. Il y a une question que je voulais vous poser, Emmanuel Pierrotin, puisque là, on voit des œuvres de Bernard Friis qui s'étalent sur plus de 40 ans, l'âge à peu près du Centre Pompidou, d'ailleurs. Quand vous avez débuté, vous, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça a changé ?
Ça a changé énormément. L'apparition du fax a permis enfin de pouvoir faire une transaction où on adressait un document, on pouvait faire un accord écrit. Ça, une très mauvaise photo noir et blanc, mais c'était déjà un changement colossal. Quand j'allais au Japon faire des foires en 93, on y allait avec des diapositives. Et c'est vrai quand on envoyait des propositions à des collectionneurs, on leur donnait l'enveloppe timbrée pour nous restituer les diapositives qui coûtaient très cher, évidemment. Les jeunes marchands qui pensent toujours que c'est beaucoup plus difficile maintenant qu'avant ne se rendent pas compte que l'aspect technique était incroyablement plus dur.
Et pour un peintre comme vous, Bernard Friis, ça n'a rien changé ou ça a tout changé ?
Ça a changé aussi beaucoup de choses. Je veux dire, ne serait-ce que les reproductions qui étaient, puisque Emmanuel parlait du fax, les reproductions qui étaient des diapositives ou des hectachromes, alors que maintenant tout est numérique. Les archives ont changé.
Bernard qui a une exposition à Tokyo qui, actuellement. Tous les gens qui s'intéressent au travail de Bernard Friese ou à la galerie sont au courant de cette expo, connaissent les images des œuvres, alors que des artistes comme Calder ou Picasso, qu'on a vu précédemment, Calder a produit 30 000 œuvres, Picasso 40 000. Est-ce qu'on leur reprochait de faire telle ou telle série ? Non, on ne leur reprochait jamais. Et d'ailleurs, beaucoup de gens n'en étaient pas conscients. Maintenant, les artistes, paradoxalement, produisent moins d'œuvres que dans ces périodes-là. On a tendance à penser le contraire parce qu'il y a une hyper-exposition des œuvres par les réseaux sociaux.
C'est comme la violence. On croit qu'il y a beaucoup plus de violence aujourd'hui, simplement parce qu'on regarde plus la télévision.
Exactement.
Il y a beaucoup moins de violence aujourd'hui qu'il y en avait il y a 30 ou 40 ans.
Et au risque de choquer tout le monde, il y a moins de pauvreté.
Aussi, par l'occasion. Et pour vous, pour les musées, Angela Lampe, qu'est-ce que ça a changé?
Ça a beaucoup changé, notamment pour la gestion des prêts. Pour organiser une exposition, c'est beaucoup plus facile parce que la communication est plus rapide. Donc déjà, mais je me souviens aussi des premières expositions que j'ai faites par fax. C'était déjà un grand avantage. Mais aujourd'hui, par email, on peut envoyer en plus des images, des fichiers. C'est tout ça, c'est vraiment beaucoup plus facile. Il y a aussi donc l'information sur les réseaux sociaux. Donc on est plus et trouve plus facile ce qui se fait dans d'autres continents et surtout aussi pour la recherche bibliographique. Enfin, il y a quand même une très grande facilité grâce à l'ordinateur et grâce à l'Internet surtout.
Il y a autre chose qui a changé pour moi, c'est que je me souviens dans les années 60-70, l'art contemporain n'aimait pas l'argent, il se moquait de l'argent, il se voulait contre l'argent, on aurait dit qu'il était de gauche.
Est-ce que tu penses qu'ils aiment l'argent maintenant ?
Non, je pense qu'aujourd'hui, l'art contemporain s'est réconcilié avec l'argent, comme il s'est réconcilié avec beaucoup de choses, avec le public aussi. Et j'ai l'impression que leur rapport a complètement changé.
Le nombre d'artistes qui peuvent vivre de l'art contemporain a explosé. Il y a un nombre croissant de personnes qui peuvent, sans être forcément issues de milieux favorisés. Il ne faut pas oublier que beaucoup de critiques d'art, beaucoup de conservateurs, beaucoup de galeristes étaient de milieux très favorisés. Maintenant, on peut enfin, dans les dernières années, épouser cette passion sans venir de ces milieux-là.
Vous l'avez ressenti, Bernard Friese ?
Oui, monsieur.
Mais ça change quoi ?
Ça change. Je pense qu'il y a des milliers d'artistes aujourd'hui qui ne pouvaient pas exister autrefois.
Ah oui ?
Des milliers et des milliers de galeries qui ne pouvaient pas exister autrefois. Et des milliers de nouveaux musées de la même manière.
Mais est-ce que pour autant, il y a plus de génie qu'avant ?
Je ne pense pas que l'histoire le dira.
Emmanuel Perrotin, aujourd'hui, on vous voit très à l'aise. Sautant d'un continent à l'autre, mais ça n'a pas toujours été facile. Est-ce que vous avez eu des périodes vraiment où vous avez failli arrêter ?
Oh, tous les 6 mois, j'ai envie de dire. Mais
encore ?
Un peu moins. Je trouve que je suis un peu plus. Alors, c'est pas qu'on prenne moins de risques, on prend toujours beaucoup plus de risques, mais je partage ce risque avec beaucoup plus de gens. C'est-à-dire que mon équipe absorbe énormément du stress et je les en remercie. Franchement, en ce moment, je suis très heureux.
Il y a eu des périodes où vous aviez des problèmes avec vos banquiers ?
J'ai eu un parcours bancaire très intéressant. J'ai été dans une banque qui a fait faillite et j'étais le seul qui a remboursé son droit de découvert de 100 000 francs parce que mon associé de l'époque était ami avec le président et ça se faisait. Voilà. Alors que les gens s'enchaînaient à la grille. Ensuite, je suis passé dans une banque qui a été rachetée par une autre banque et on m'a donné un affectataire qui m'a dit « J'ai un mauvais rôle dans cette banque, c'est de vous dégoûter d'être chez nous ». Et donc, ils m'ont...
Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient que des gros comptes ?
Ils voulaient des comptes minimum de 50 millions de francs de chiffre d'affaires par an. Et donc, il m'a mis en interdit bancaire pour 500 francs, alors qu'ils m'ont annulé un droit de découvert de 100 000 francs du jour au lendemain, alors que j'étais censé en avoir un de 200 000. Et voilà, je me retrouvais en interdit bancaire. C'est pas facile de gérer une société. Et il a fallu rebondir. C'était la période la plus humiliante pour mon père. On s'est retrouvés à aller dans cette agence qu'on peut voir d'ici, l'agence du Crédit du Nord.
Oui.
Mon père avait ouvert cette agence du Crédit du Nord quand il est...
Votre père était employé de banque.
Il avait commencé à la caisse de la banque. Il avait fini responsable des engagements. Et le chef d'agence de cette agence était tellement heureux, alors que mon père avait pris sa retraite, de pouvoir lui dire « Mais monsieur, vous comprenez bien que ça n'est pas aussi facile et tout ça. » Et tout d'un coup, il se vengeait
sur
moi. Et oui, j'étais dans mes petits chaussons ce jour-là.
Et il paraît qu'à une époque, quand on avait un peu trop d'articles dans la presse, quand on était galeriste, on avait un contrôle fiscal.
Bien sûr. Beaucoup de mes confrères me disaient en réunion de comité de la FIAC « Oh là là, tu as un article dans tel magazine. Oh là, le contrôle fiscal. » J'en étais à mon 6e, donc
je donc connaissais.
Ah oui, j'en ai eu énormément, évidemment. Ah oui, il fallait accepter ça.
Bon, ben, je vous souhaite le meilleur, Angela Lampe, Bernard Fries, Emmanuel Perrotin, pour l'inauguration de cette grande rétrospective. Pourquoi vous l'avez intitulée Bernard Fries sans repentir ?
Bah, c'est un beau titre avec un double sens. Hein. Donc, en plus, c'est comme une statement. Donc, voilà, sans regret, et en même temps, sans repentir, c'est-à-dire la ligne continue, hein, c'est-à-dire on ne se reprend pas. Donc, moi, je sais pas. Après, moi, je trouve que c'est un titre qui va très bien à l'artiste.
Et en plus, c'est très joli. Merci de nous avoir emmenés en balade avec vous, Emmanuel Perrotin. Je remercie le Café Beaubourg, le Musée Picasso, le Centre Pompidou, nous nous trouvons. Et puis je vais remercier la Galerie Perrotin. Nous avons démarré cette émission. La rétrospective Bernard Fries au Centre Pompidou, c'est du 29 mai au 26 août. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 11h pour une autre balade.